France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés. Heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sur France Info. Tous les matins jusqu'à 9h30, nous revenons sur les deux événements qui font l'actualité sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 sur la TNT. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Théveniaud, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique de France Info. Bonjour Jean-Rémy.
Bonjour Agathe, bonjour à
tous. Renaud Dely, premier débat aujourd'hui, François Bayrou peut-il encore sauver sa peau?
Et oui, le compte à rebours est enclenché, ce sera donc lundi prochain, ce fameux vote de confiance souhaité par François Bayrou. Il soumet donc le sort de son gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est plutôt mal parti, puisque à l'heure qu'il est, l'ensemble des oppositions, les gauches et le Rassemblement national ont indiqué qu'ils ne voteraient pas la confiance à François Bayrou, qui continue d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut cette confiance, et puis qui continue aussi de s'adresser, d'en appeler aux Français, notamment hier en fin de journée, lors d'une émission d'une heure et demie qui a été diffusée sur les quatre chaînes d'information continue, dont France Info TV. Voici pourquoi le Premier ministre veut la confiance.
Si je n'ai pas l'assentiment minimal des Français et de ceux qui les représentent, il n'y a aucune politique courageuse possible.
Aucune politique courageuse possible, dit-il, s'il n'a pas l'assentiment. Sauf que, je le disais, l'ensemble des oppositions ne veulent pas lui accorder cette confiance. À commencer par les socialistes. On sait que le sort du gouvernement dépend de l'attitude du Parti Socialiste. Et Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, hier, sur BFM TV, indiquait qu'il n'en était pas question.
Le seul mot que j'attends de lui maintenant, c'est de dire au revoir. Je ne vois pas très bien ce que François Bayrou pourrait apporter encore, mais la décision que nous avons prise est irrévocable.
Est-ce qu'il peut encore convaincre François Bayrou, Pauline Théveniaud, et est-ce qu'il y croit encore d'ailleurs lui-même?
Beaucoup au sein du gouvernement, même la quasi, en fait, l'unanimité des ministres, des élus du socle commun n'y croient plus, eux. Et même, certains disent, au fond, il fait semblant de se battre. François Bayrou, faut pas oublier que cet été, il était sans illusion sur la classe politique, très très pessimiste. Donc, il y a une part quand même de théâtre dans tout ça. Il a cru au trou de souris avant qu'il demandait un vote de confiance, mais en fait, dès après sa conférence de presse, quand il a vu les très vives réactions, il a déchanté. Et au fond, il est quand même pas très loin de la rupture avec les socialistes, et même dans la rupture totale avec les socialistes, on voit que ça a pris quand même une tournure personnelle.
Le paradoxe, c'est que François Bayrou s'appuie sur l'opinion, invoque les Français, alors qu'il est extrêmement impopulaire, Jean-Rémy Baudeau.
François Bayrou, probablement, rêverait que les Français descendent dans la rue pour mettre en avant la question de la dette. Un point qui est assez vrai, qu'il a dit hier soir, c'est que ça fait 10 jours qu'on parle de la dette et que normalement, on n'en parle jamais. Ça, c'est vrai, on peut lui mettre à son crédit, je vois que ça fait sourire Renaud, mais c'est le point. Et c'est vrai que je suppose que François Bayrou aimerait que le pays se lève sur cette question-là. Sauf que François Bayrou, il en parle depuis 30 ans, que c'était un de ses thèmes de campagne en 2007. Le seul problème, c'est qu'en 2007, la dette, elle était de 1000 milliards, qu'aujourd'hui, elle est de 3300 milliards et que le pays ne s'est pas pour l'instant arrêté. Et donc, il a du mal à vendre l'idée qu'il y a une urgence, il a du mal à vendre l'idée que c'est vraiment un problème. Et pour l'instant, les différentes classes, enfin la classe politique et les différents partis n'ont pas beaucoup intérêt à se mettre dans sa roue et à aller dans son sens. Donc, il est très seul. Il est très seul sur cette question-là. Et je pense qu'on va voir cette semaine ces consultations à Matignon ne mèneront évidemment à rien.
Il s'est mis un peu tout le monde à dos aussi avec sa proposition de supprimer 2 jours fériés. D'ailleurs, hier, François Bayrou a dit qu'il pouvait en supprimer qu'un seul. Finalement, Pauline Théveniaud, ça pourrait changer quelque chose?
Mais non, en fait, ça ne changera rien et c'est un semblant de main tendue. Effectivement, il dit qu'il pourrait en supprimer un sur les deux. On a entendu Xavier Bertrand à votre micro dire bon, ça reste 1 jour férié supprimé de trop. Et d'une certaine façon, c'est trop tard, cette proposition.
Et il a dit aussi, c'est le péché originel.
Oui.
Ça a braqué
c'est
tout le monde.
C'est ça, ça a braqué tout le monde d'entrée de jeu. Et puis, derrière cette apparence de main tendue, en réalité, il reste assez inflexible, François Bayrou. Il a besoin que les Damadou et les socialistes, mais il dit qu'en fait, ce qu'il propose, ça résoudrait rien.
Il leur tape un peu dessus.
Il leur envoie des pics. Il dit, la taxe Zucksmann...
On peut dire qu'il a été particulièrement critique avec les socialistes.
C'est ça, mais c'est là qu'on voit que d'une certaine façon, qu'on peut vraiment se demander s'il cherche réellement à obtenir cette confiance et s'il est aussi ouvert à la négociation qu'il le dit.
Oui, clairement, il n'était pas dans la séduction avec le PS hier, Renaud Dely.
Ce qui était frappant
Bayrou.
Hier dans l'intervention de François Bayrou, c'est qu'on a l'impression, et d'ailleurs il le dit, il s'adresse aux Français, il veut parler aux Français. Lundi prochain, ce n'est pas les Français qui seront dans l'hémicycle et qui voteront ou pas la confiance, ce sont les députés. Donc il prend date en fait, il sait très bien qu'il n'aura pas cette confiance, il le sait depuis un moment, et on avait le sentiment qu'il prenait date peut-être pour l'après, c'est-à-dire je suis celui, parce qu'il a évidemment des ambitions politiques qui demeurent, il a d'ailleurs dit, le combat continue, je ne dis pas au revoir et le combat continuera, d'une façon ou d'une autre. Alors est-ce qu'il y aura une éventuelle quatrième candidature présidentielle de François Bayrou? On n'en est pas là, mais il a sûrement ça dans un coin de la tête, en tout cas on voyait bien qu'il prend date, c'est-à-dire je suis celui qui aura averti du péril, de l'effondrement financier du pays, vous ne m'aurez pas écouté, et donc le moment venu, il se pose un peu en recours. Avec les socialistes, la rupture, elle est réelle, profonde, définitive, depuis déjà un petit moment, en fait. De son côté, le Premier ministre n'a pas supporté le traitement qu'il pense avoir subi, notamment de la part des socialistes sur l'affaire Bétarame, et puis de l'autre côté, les socialistes ont le sentiment d'avoir été méprisés, ignorés, notamment tout au long de l'été. Et encore, vous le disiez jusqu'à hier soir. Et puis juste un dernier point, on disait que François Bayrou est seul. Le problème d'ailleurs auquel il sort dans les jours qui viennent, c'est qu'on voit que, heure par heure, si j'ose dire, il est de plus en plus seul. On a entendu à ce micro, il y a quelques minutes, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, expliquer que lui ne voterait pas la confiance, sauf si en gros, le Premier ministre changeait tout son plan. David Lisnard, autre responsable LR, a fait la même déclaration ces derniers jours et encore hier, etc. On sait très bien qu'à LR, il y a beaucoup de gens qui ne voteront pas, en tout cas, la confiance au sein du groupe. Il y a un certain nombre de députés qui ne le feront pas. Alors, il y a aussi, là, d'ailleurs, puisque tout le monde a une seule obsession en tête, d'ailleurs, un peu sur tous les bancs, c'est quand même 2027. Il y a aussi des règlements de compte internes, une façon de mettre un peu en difficulté Bruno Retailleau, etc. Donc, on voit bien que plus le temps avance jusqu'à lundi prochain, moins il y a de bayrouistes, en quelque sorte, à part le Premier ministre.
À quoi ça va servir les consultations cette semaine, Jean-Rémy Boudot? Il y a encore un espoir de trouver un tout petit compromis?
Ça risque d'être une chorégraphie assez attendue. Chorégraphie parce que chacun va venir avec quelque chose d'un peu prévisible. Les macronistes... Alors, on rappelle le calendrier.
Demain, à 17... le RN.
Alors, ce soir, les communistes. Demain, le RN et Renaissance. Il y en a un autre demain de mémoire, peut-être. Et surtout, jeudi, effectivement, c'est les socialistes. Non, je dis chorégraphie attendue parce que chacun va jouer sa partition. Et d'un côté, il y a ceux qui vont être... Oui, il y a la droite aussi aujourd'hui. Justement, la droite va demain... Non, demain. Attendez, je reprends. Aujourd'hui, les communistes. Demain, le RN et la droite et les macronistes. Et jeudi, les socialistes. Voilà, tout est clair. La chorégraphie attendue, c'est que certains vont se placer du côté de la responsabilité en disant « il faut faire quelque chose », etc. Et tous les autres vont dire « ça ne va pas, ça matraque les Français », etc. Donc en fait, le script est quasiment déjà écrit. Et ça va être la difficulté de François Bayrou. C'est qu'il a beau dire qu'il est prêt à discuter avec le RN. C'est un peu ce qu'il a fait hier soir, en disant que sur les questions d'immigration, il n'était pas contre poser certaines questions. Mais en réalité, ça ne va pas faire bouger les curseurs de manière fondamentale. Et puisqu'il a braqué tout le monde, et l'opinion y compris, en réalité, il sait très bien que son sort est scellé.
La difficulté, c'est aussi que les oppositions ont plutôt intérêt à jouer le pourrissement, Pauline. Non. Renaud Dely, tout à l'heure, parlait des calculs à droite. Xavier Bertrand, qui cherche quand même en creux à s'opposer à Bruno Retailleau pour montrer que lui, il n'est pas macroniste. Il y a aussi des calculs à gauche, il y a des calculs au RN. Personne n'a intérêt à la réussite du gouvernement aujourd'hui?
Absolument. D'autant que tout le monde a en tête la présidentielle de 2027. Vous savez, il y avait un ministre qui me disait récemment faire tomber Bayrou, ça coûte pas cher parce qu'il est tellement impopulaire que finalement, vis-à-vis de l'opinion, personne en pâtira réellement. Attention, néanmoins aux conséquences de l'instabilité et de la censure. Vous savez, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu l'an dernier au moment où les oppositions ont censuré Michel Barnier. Et la majorité, ou le socle commun, puisqu'il n'avait pas précisément pas la majorité, ont joué à fond de cette dramatisation et ont peut-être un peu crié au loup et un peu trop dramatisé. Et finalement, y a eu un budget et ça a eu des conséquences, ça a eu un coût lourd, mais ça n'a pas été le cataclysme. Et finalement, c'est comme si là, ils prêchaient un peu dans le désert quand ils disent attention, ça va avoir des conséquences, sauf que ce qu'on entend et ce qu'on dit, c'est qu'une deuxième censure, c'est pas comme une première censure. Ça aura un coût bien plus élevé. Et ça, quand même, les uns et les autres devraient y prendre garde.
C'est Bayrou le chaos, Jean-Rémy ?
En tout cas, cette dramatisation, elle est malgré tout à prendre en compte. C'est-à-dire que ça n'est pas juste... on entend certains dire la question de la dette n'est pas importante. La semaine dernière, un ministre à Bercy me disait que la dette, ça passe jusqu'au jour où ça passe plus. Aujourd'hui, il faut rappeler que la France emprunte à des taux qui sont proches de l'Italie. On a pas de difficulté pour se financer sur les marchés, mais cette question, elle peut assez vite vriller. Et donc, ce qui est quand même assez particulier, c'est de se dire qu'à 18 mois de la présidentielle, puisque personne n'a intérêt à collaborer et à rentrer dans une éventuelle coalition, eh bien personne n'a intérêt aussi à se poser les bonnes questions sur les finances publiques, et ça c'est quand même un peu problématique.
Dans un instant, Emmanuel Macron sous pression, va-t-il résister ? Mais tout de suite, il est 9h17, c'est le Fil Info de Maureen Suniard. À la une ce matin, ce puissant séisme qui a secoué l'est de l'Afghanistan dans la nuit.
Un séisme de magnitude 6, le dernier bilan humain communiqué par les autorités évoque plus de 600 morts et plus de 1500 blessés. En France, c'est l'heure de la rentrée des classes pour près de 12 millions d'élèves. Deux exceptions notables, pas de rentrée dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var à cause de la vigilance orange en cours liée aux violents orages. Donc au total, 7 départements du Sud-Est sont en vigilance orange. 1000 foyers sont privés d'électricité dans le Vaucluse. Il faut abandonner la suppression de 2 jours fériés proposés par François Bayrou. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui l'affirme ce matin. Yael Braun-Pivet s'exprime alors que le gouvernement risque d'être renversé lundi prochain par un vote des députés. Benjamin Pavard, rappelé en équipe de France de foot pour le début des qualifications du Mondial 2026, annonce de la fédération alors que le défenseur William Saliba s'est blessé à la cheville gauche. Il a dû déclarer forfait. Les Bleus jouent dès vendredi contre la Pologne.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Vous informez aujourd'hui Pauline Thévenot du Parisien et Jean-Rémy Baudot, chef de la politique à France Info. On passe à notre deuxième débat. Derrière François Bayrou, c'est le président qui est visé. Est-ce qu'il peut tenir, Renaud Dely ?
Oui, parce que un an après et 2 prémices plus tard, eh bien Emmanuel Macron devrait se retrouver mardi prochain, au lendemain de la chute du gouvernement, dans la même position, c'est-à-dire en première ligne, pris sous les tirs croisés de l'ensemble des oppositions et considéré comme le principal responsable de ce désordre politique. C'est en tout cas la position qui a été défendue, c'était mardi dernier, chez nos confrères de France Inter, par le fondateur des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc, s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer la motion de destitution.
Alors, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis réclament le départ d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas la première fois, mais au-delà, le chef de l'État va se retrouver donc sous pression, raison pour laquelle il écarte toute précipitation électorale, il écarte toute nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Il a aussi répété vendredi qu'il exercerait son mandat jusqu'au dernier jour en 2027. Mais quelle marge de manœuvre conserve Emmanuel Macron ? Peut-il relancer ce quinquennat qui semble encalminé depuis la dissolution ratée de l'année dernière et l'absence de majorité ?
Est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre, vraiment, le président Pauline Thévenot ?
Mais il en a de moins en moins. Là, on sait qu'il a commencé à consulter les uns et les autres sur qui il verrait comme Premier ministre, mais il bute sur cette question, puisque effectivement, il ne faut pas perdre les LR d'un côté, il faudrait amadouer le PS de l'autre. C'est toujours la même question qui se pose à lui depuis sa dissolution ratée, mais à chaque fois avec des contraintes supplémentaires et de moins en moins de solutions. Il y a quand même un paramètre pour le président, c'est qu'il va devenir très très vite une cible, sitôt que François Bayrou sera tombé. tous les regards vont se tourner vers lui. Et d'ailleurs, ses opposants les plus farouches n'ont même pas attendu le 8 septembre pour le cibler. C'était assez stupéfiant de voir que...
Jean-Luc Mélenchon, pour lui, le chaos, c'est Macron.
Le lendemain matin de la conférence de presse de François Bayrou annonçant un vote de confiance, c'est-à-dire sans même attendre que Bayrou tombe, il appelait à la destitution d'Emmanuel Macron. Et il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon. On a vu quelqu'un comme Jean-François Copé, un élu Les Républicains, dire qu'il fallait qu'il démissionne. Et cette idée, cette pression montait en fait tout de suite.
Pourquoi il est ciblé comme ça, le président ? Est-ce qu'il paye encore les conséquences de la dissolution ?
Oui, une dissolution qu'il n'a pas su expliquer, qui n'a pas évidemment été comprise, et une dissolution peut en amener une autre, peut en cacher une autre, c'est un peu comme les trains peut-être. Il faut se rendre compte que si François Bayrou tombe, il y aura un ou une autre première ministre qui peut-être tombera aussi et qui peut-être entraînera une nécessité de rappeler aux urnes, donc à travers une dissolution. Et si ça se passe mal encore, s'il n'y a toujours pas de majorité, quel est le fusible suivant ? Et institutionnellement, il faut juste se poser la question, est-ce qu'il est sain que le président de la République devienne un fusible ? Il faut vraiment se poser cette question-là, parce que ça veut dire que la stabilité de l'État, elle est aussi incarnée par le président de la République, quoi qu'on pense de ce président, et que si demain, la pression populaire ou politique pousse à des démissions, ça veut dire qu'on crée un précédent. Ça veut dire que le ou la prochaine présidente, sous la pression de la rue, sera amenée à éventuellement démissionner. Et si c'est une musique qui est dangereuse, parce qu'il faut bien se rendre compte que s'il y a une démission du président, donc c'est le président du Sénat qui devient président par intérim, mais les élections doivent être organisées entre 20 et 35 jours. J'entendais l'autre jour sur France Info, Florence Portelli de la droite qui disait ça nous permettra de remettre à plat un débat et d'avancer sereinement, mais pas du tout. En 20 à 35 jours, c'est un chaos total. Ça veut dire que c'est un rouleau compresseur politique, ça veut dire que c'est juste, il n'y a pas de débat en 35 jours, c'est pas un modèle de société. Et là, on se rend bien compte qu'actuellement, on a un problème de modèle de société, quasiment de modèle, le modèle français est en souffrance, et que c'est pas en 20 à 35 jours que ça va s'arranger.
Renaud Dely.
En fait, les deux échéances électorales sont liées en termes de logique. Si Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale, c'est précisément pour repousser le spectre d'une éventuelle démission sous pression, sous la pression par exemple aussi de la rue, vous avez raison de l'évoquer Jean-Rémy Baudeau, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de mouvements ces prochains jours et ces prochaines semaines qui veulent justement cibler le chef de l'État, je pensais en particulier à ce mouvement du 10 septembre, Bloquons tout, là, qui a très clairement Emmanuel Macron comme cible, comme ce fut le cas évidemment lors des Gilets jaunes que tout le monde a en mémoire. Or, si jamais Emmanuel Macron dissout de nouveau l'Assemblée nationale, il y a quand même un très fort risque pour lui de subir une nouvelle défaite dans les urnes. Évidemment, un deuxième scrutin législatif perdu pour le chef de l'État en place, ça l'affaiblirait encore un peu plus, et ça pourrait le pousser un peu plus vers la sortie. Donc c'est pour ça qu'il veut échapper à cette perspective-là. Le problème auquel il se heurte, enfin il y en a plusieurs, ils sont très nombreux. D'abord, c'est que cette idée de dissolution, elle fait y compris du chemin dans son camp. Hein. Édouard Philippe, par exemple, a expliqué que c'est une issue qui pourrait devenir quasi inévitable.
Inéluctable,
effectivement, au vu du blocage politique, évidemment. Ensuite, elle est plutôt souhaitée par les électeurs. On voit que dans les sondages, les électeurs, les Français, ont plutôt envie de retourner aux urnes, très probablement d'ailleurs pour voter contre Emmanuel Macron. Ce qui s'éclaircit, c'est que le Rassemblement National, lui, veut absolument une dissolution, désormais, et il semble être sur cette ligne de faire tomber, de toute façon, tous les futurs premiers ministres. Et pourquoi ? Parce que, on l'a entendu par la bouche de Jordan Bardella il y a quelques jours, il veut essayer d'incarner l'ordre et de faire d'Emmanuel Macron le facteur du désordre. C'est ça la bataille qui est en cours, enfin qui va se jouer probablement au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou. Emmanuel Macron va évidemment, en tant que garant des institutions et de la stabilité du pays, se poser en garant de l'ordre, justement, une forme là aussi de reprise de moi ou le chaos, sauf que ses opposants, à commencer par Jordan Bardella et le RN, vont dire non, le facteur d'instabilité, le facteur de désordre, il est à l'Élysée, et donc il faut retourner aux urnes pour ramener de l'ordre, et avec l'espoir, évidemment, cette fois-ci, d'obtenir une majorité pour le RN. Donc je pense que c'est cette bataille, justement, de la stabilité et de l'ordre qui pourrait s'engager entre Emmanuel Macron et ses opposants au lendemain de la chute probable de François Bayrou.
Pour l'instant, Emmanuel Macron tient bon, il précise qu'il ira au terme de son mandat, Pauline Thévenot. Est-ce que vous pensez qu'il aura le choix ?
Bah, c'est toute la question. Mais s'il n'a pas le choix, on en revient aux propos de Jean-Rémy à l'instant. Ce sera une crise politique, institutionnelle majeure pour le pays. Le problème, c'est quand même qu'Emmanuel Macron, il a de moins en moins de cartes en main. Clairement, on le voit bien, il n'a pas de majorité. Et ce qui composait un petit socle s'effrite de plus en plus. Il n'est qu'à voir les déclarations d'Édouard Philippe, Bruno Retailleau,
son ancien premier ministre,
Gabriel Attal. La semaine dernière, en fait, c'est chacun jouait sa partition, ne se cachant même plus d'avoir des désaccords. Donc on voit plus tellement ce qu'il est.
Sachant qu'il y a le 10 septembre, le mouvement du 10 septembre qui se profile, ça aussi, ça pourrait jouer sur la suite du mandat du président.
Ah bah bien sûr, parce que imaginez ce mouvement social sans Premier ministre à Matignon. Ça va être quand même très 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 compliqué de tenir. J'ajoute que ça c'est un des paramètres de l'équation. Emmanuel Macron, il a un agenda très contraint en septembre, puisqu'il y a évidemment cette date fatidique du 10 septembre. Mais il a le 21 et 22 septembre une échéance fondamentale majeure à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec la reconnaissance de l'État palestinien. Donc on voit que son mois de septembre, il est déjà très très rempli, et que c'est dans les interstices qu'il va devoir trouver les solutions pour sortir de la nasse.
Emmanuel Macron qui prenait un peu de hauteur à l'international, c'est raté, Renaud.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte, le contexte géopolitique que vous évoquez, il y a évidemment aussi la guerre en Ukraine et l'attitude de Vladimir Poutine, l'attitude aussi de Donald Trump, la crise financière qu'on a évoquée aussi, on a l'impression que la plupart des responsables politiques n'ont qu'une obsession, c'est de préparer, d'évoquer de façon plus ou moins subliminale leur candidature à une élection présidentielle prévue en 2027. Ça semble parfois un tout petit peu décalé par rapport à tous ces enjeux. On a entendu d'ailleurs votre invité tout à l'heure, Xavier Bertrand, à la fin de l'interview, lorsque vous l'avez interrogé sur l'hypothèse de sa candidature en 2027. Il avait, officiellement, ça ne l'intéressait pas du tout, mais il avait quand même très envie d'en parler. Il en a d'ailleurs beaucoup parlé. Il a regretté que l'interview s'achève un peu vite à son goût.
Elles vont être longues, ces deux années qui nous restent avant la fin officielle du mandat. Merci beaucoup, les informés. Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien, aujourd'hui en France. Une du Parisien, aujourd'hui.
C'est sur ses parents qui se tournent de plus en plus vers l'école privée pour leurs enfants.
Et merci beaucoup, Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique à France Info. Nous, Renaud, on se retrouve demain matin.
Absolument.
Et vous retrouverez les informés ce soir à 20h.